personne ne sait qui remportera l'élection présidentielle américaine. Les sondages donnent les deux candidats presque ex aequo. Ces dernières semaines, Kamala Harris et Donald Trump vont d'état en état, parfois le même jour, quasiment que dans les swing states. Ces états pivots, ces états partagés, indécis, qui vont décider du prochain ou de la prochaine présidente des États-Unis. Par exemple, la Pennsylvanie, le Michigan, là où nous allons retrouver Benoît et Thierry. Bonjour Benoît Ballet, tu es correspondant aux États-Unis et tu es en ce moment à Warren dans le Michigan.
Salut Yves.
Bonjour Thierry Arnaud, tu es éditorialiste politique international et tu es sur la route pour Philadelphie pour le meeting de Joe Biden. Il y a sept États pivots où la campagne se concentre, c'est ce qu'on appelle les swing states, dont font partie la Pennsylvanie et le Michigan. Thierry, comment ça marche ces États pivots?
Alors effectivement, il y a sept États qui vont décider du sort de l'élection avec une marge attendue très faible. Alors, pour résumer les épisodes précédents, hein, si j'ose dire, on a au total 538 grands électeurs répartis sur les 50 États américains. On leur attribue à chacun, à ces 50 États, un nombre de grands électeurs en gros proportionnel à la population. Et puis, à deux exceptions près, qui sont le Nebraska et le Maine, mais je vous épargne les détails, si tu arrives en tête dans l'État, tu empoches la totalité des grands électeurs. Donc, dans la très grande majorité des États, il n'y a aucun suspense. Les 55 grands électeurs de Californie, par exemple, on sait qu'ils vont aller à Kamala Harris parce que ça vote toujours démocrate. Au Texas, ça vote toujours républicain. Ça sera du côté de Donald Trump, etc., etc. Mais il y a donc ces sept États qui, selon les élections, basculent d'un côté ou de l'autre et qui font la différence. Et donc, évidemment, dans ces derniers jours de la campagne, c'est dans ces sept États que les deux candidats vont concentrer leurs efforts pour essayer d'emporter l'élection. Et parmi ces sept États, il y en a deux qui sont évidemment très importants. Le Michigan, où se trouve Benoît, la Pennsylvanie, vers laquelle je suis en train de me diriger, ce sont des États qui vont faire la différence mardi prochain.
Et Benoît, pourquoi est-ce que le Michigan, particulièrement, c'est un État clé ?
C'est-à-dire que ça change en fait. Enfin, il y a une évolution qui se fait au fil des ans. Alors, ça n'a pas toujours été les sept n'ont pas toujours été des swing states. Il y a notamment la Caroline du Nord. On avait un doute il y a un an ou deux. On savait pas si ça allait être considéré comme un swing state. C'est dû, de ce que je comprends, et peut-être que Thierry complétera, à l'évolution démographique du pays. Les gens déménagent aux États-Unis, donc il y a des mouvements démographiques qui font que certains États qui étaient peut-être plus démocrates, commencent à se peupler davantage de gens qui sont plutôt conservateurs, et donc il y a des changements en termes de politique, en termes de perception politique des États. Et puis il y a aussi, en fait, tout bêtement, l'immigration ou le changement de type de population qui habite dans ces États, avec l'évolution des mentalités. Par exemple, si on parle des groupes qui sont constitués d'immigrants ou des générations qui ont suivi les immigrés aux États-Unis, les immigrés, par exemple, latinos, de tout temps jusqu'ici, votaient plutôt démocrate, et on s'aperçoit aujourd'hui que certaines générations, les deuxième ou troisième générations, tendraient davantage à s'intéresser à un programme plus conservateur comme celui de Donald Trump. Donc je crois qu'il y a à la fois une évolution démographique, des mouvements de population, et puis à la fois les Américains qui évoluent eux aussi dans leur approche politique et dans la façon dans ce qu'ils attendent de la politique au jour le jour. Et donc on a des États, des swing states, une liste qui évolue, et effectivement des États qui continuent de l'être parce que finalement les candidats n'arrivent pas à faire le nécessaire dans ces États. Et ce sont aussi des États qui ont des populations très très diversifiées, qui sont très composites, et donc il y a plein de challenges à aborder pour les candidats, et c'est ce qui fait que parfois on se retrouve dans des enquêtes d'opinion, dans des sondages qui les montrent au coude à coude.
Thierry, pourquoi est-ce que la Pennsylvanie, même question, est un swing state parmi ces sept?
Pour compléter ce que disait Benoît, c'est exactement ça, c'est l'évolution démocratique, c'est l'évolution sociologique, c'est aussi, et ça compte beaucoup, le rapport à la mondialisation. Est-ce que tu es exposé à l'économie internationale ou pas, et de quelle manière? Est-ce que tu es à côté d'une usine qui a fermé parce que on en a ouvert une autre en Chine ou au Mexique pour la remplacer? Est-ce que c'est plutôt un état industriel, plutôt un état rural, plutôt un état où les villes occupe une place et une proportion très importante dans la démographie. C'est tout ça qui va, au fond, déterminer la structure du vote et le fait que tu sois plutôt un État républicain ou démocrate ou plutôt un swing state. Sachant, parce que sinon ça serait trop facile, qu'à l'intérieur des États, il y a évidemment des variations parfois assez importantes. Philadelphie, par exemple, où je serai tout à l'heure, ça vote à 80% démocrate. Si tu prends le comté de Butler, autre exemple, tu sais, là où Donald Trump a été visé par cette première tentative d'assassinat, c'est beaucoup plus rural, c'est beaucoup plus conservateur, et donc ça vote pour les deux tiers en faveur du candidat républicain. Donc tu vois, il y a des grandes variations à l'intérieur même de ces États. Mais voilà, c'est en fonction de tout ça, en fait, que, j'allais dire presque au kilomètre près, les campagnes définissent leur stratégie et choisissent les déplacements des candidats. Philadelphie, par exemple, ça sera le dernier meeting de campagne de Kamala Harris lundi soir, le point d'orgue.
Pourquoi ce choix ?
Eh bien, parce que c'est assez simple, hein, c'est de l'arithmétique. Tu as à peu près 7 millions de personnes, grosso modo, hein, qui vont voter en Pennsylvanie. Sur ces 7 millions de personnes, tu as plus de 800 000 voix, sans doute, qui vont venir de Philadelphie. Et donc, voilà, ton réservoir de voix, il est très important, il est énorme, il est là, et c'est là qu'il faut aller chercher, parce que ça peut faire la différence, surtout dans un État où la marge peut être très, 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 très faible. Hein. Il y a eu très peu d'écart entre Joe Biden et Donald Trump en 2020. Il y en a eu encore moins entre Hillary Clinton et Donald Trump en 2016. 44 000 voix d'écart, c'était une marge de 0,70%, donc c'est vraiment l'épaisseur du trait. Et donc, à quelques dizaines de milliers de voix, tu peux gagner ou tu peux perdre. La Pennsylvanie, c'est 19 grands électeurs. Et donc, on peut dire qu'au fond, Philadelphie, c'est vraiment la ville, la swing city, si tu veux, la ville état-clé, la ville clé à l'intérieur de l'état-clé qui va compter peut-être le plus pour décider du résultat final mardi.
C'est ça, mardi, c'est le résultat final. Les élections, en fin de compte, elles ont commencé depuis septembre dans certains États. Ça marche comment, le vote aux États-Unis ? Ça ressemble à quoi, un bulletin de vote ?
J'ai devant les yeux, là, tu vois, un exemple de bulletin de vote. J'ai mis une adresse au hasard à Phoenix, en Arizona. Alors, il faut imaginer que ça n'a absolument rien à voir avec le vote d'une élection présidentielle en France. Nous, on va donc choisir, voilà, tout le monde le sait, on prend 3 bulletins avec un nom sur chaque bulletin, et puis on choisit un nom, on le met dans l'enveloppe, hop, dans l'urne, terminé, bonsoir, et on peut rentrer chez nous. Ici, le 5 novembre, on vote pas seulement pour un candidat présidentiel. Donc, exemple, Phoenix en Arizona, j'ai mis une adresse au hasard. Déjà, tu commences par des référendums, et notamment un référendum qui va cristalliser toute l'attention en Arizona, c'est un référendum sur la protection du droit à l'avortement. Donc il faut répondre oui ou non, veut-on protéger le droit à l'avortement dans l'Arizona. Mais tu vois, tu as aussi un référendum pour qui a trait à des contestations de la constitutionnalité de certaines lois dans l'État. Je lisais encore tout à l'heure, tu vois, tu as un référendum pour des mesures pénales contre ceux qui feraient du trafic d'êtres humains, un référendum sur la protection de la frontière. Bon, là, on est sur une dizaine de questions à laquelle les électeurs doivent répondre oui ou non. Ensuite, effectivement, tu as la question du président des États-Unis. 4 choix dans l'Arizona: Kamala Harris, Donald Trump, Jill Stein du parti écologiste, le Green Party, et puis Chase Oliver du parti libertarien, dont on a peu entendu parler, mais c'est parce qu'il ne pèse absolument rien dans les sondages. Tu as ensuite une question pour le Sénat dans l'Arizona. Quel sénateur d'Arizona veux-tu envoyer au Sénat ? Et on va en reparler, c'est très important. Idem pour la Chambre des représentants. Et ensuite, tu as des questions relatives à la Chambre, au Parlement de l'État de l'Arizona. Donc le Sénat de l'Arizona, la Chambre des représentants de l'Arizona. Et tu as même, enfin, des questions locales du comté où tu habites. Donc là, on est sur le comté de Maricopa. Tu vas pouvoir décider quelle personne tu veux comme shérif, quelle personne tu veux comme trésorier. Tu vas même avoir la question de savoir qui tu veux comme maire de Phoenix. On est sur plusieurs pages de questions auxquelles il va falloir répondre. Et je me souviens avoir vu, c'était dans le Michigan, à Détroit, il y a quelques semaines, des gens commençaient à voter, donc par vote anticipé. Et je me souviens m'être fait cette réflexion. Je me suis dit, mais comment ça se fait que cette personne, ça fait 15 minutes qu'elle est sur sa feuille dans son isoloir et je ne la vois pas sortir. Mais effectivement, on comprend mieux quand on se penche vraiment sur ce bulletin de vote, entre guillemets, mais c'est sur ces plusieurs pages de bulletin de vote. Il y a tellement de choses qui sont décidées pour les Américains dans ce 5 novembre, de la question la plus locale de le maire de ta ville à la question de ton futur président et même des référendums à l'échelle locale mais qui ont un écho national.
Et donc on vote dans des isoloirs, dans des urnes, mais aussi, on peut aussi voter par courrier. Moi j'ai vu ces urnes aussi dans la rue, celles qui avaient été incendiées il y a quelques jours. Thierry, on peut voter un peu partout comme ça ?
Oui, on peut voter par anticipation, on peut voter par correspondance. Alors il faut ajouter, pour aller dans le droit fil de ce que disait Benoît à l'instant, que les règles électorales, y compris ces modalités de vote anticipé, sont définies état par état et donc variables d'un état à l'autre. Mais ça a joué un rôle très très important dans cette campagne et tu avais raison de mettre le doigt là-dessus. Au moment où je te parle, il y a plus de 63 millions d'Américains qui ont déjà voté sur à peu près 160 millions d'électeurs attendus. Donc tu vois que c'est absolument considérable. Et ça joue aussi bien sûr un rôle très important dans la stratégie de campagne de ces derniers jours des candidats dans les swing states. Par exemple, si tu prends deux de ces états clés, la Caroline du Nord ou la Géorgie, en Caroline du Nord, il y a 58% des électeurs qui ont déjà voté. En Géorgie, il y a 53% des électeurs qui ont déjà voté, donc tu vois que c'est absolument considérable. En Pennsylvanie, en revanche, ils sont seulement 20% à avoir voté par anticipation. Et donc, il te reste 80% de l'électorat à aller chercher. Et tu vois, ça aussi, ça contribue à expliquer les déplacements des derniers jours et pourquoi on va mettre un coup d'accélérateur sur la Pennsylvanie dans la toute fin de cette campagne, parce qu'il y a encore une fois 80% des électeurs à aller chercher, et ça c'est très important. Un autre point au sujet de ce vote par anticipation, ça sera évidemment, si le résultat est serré et contesté, et il le sera forcément par Donald Trump si jamais il perd l'élection, les modalités de ce vote par anticipation, les modalités de ce vote par correspondance, ça sera au cœur des recours juridiques qui interviendront forcément la semaine prochaine dans ce scénario-là. Il y a déjà des bataillons d'avocats qui travaillent dans les deux camps d'ailleurs, mais du côté de Donald Trump, on a déjà lancé des dizaines de procédures dans les États-clés pour contester des modalités de vote. Et évidemment, ce sujet du vote par anticipation, du vote par correspondance, il peut très bien, la semaine prochaine, si le résultat est très serré, revenir sur la table et aller se déplacer devant les tribunaux et potentiellement monter jusqu'à la Cour suprême des États-Unis.
Et Benoît, comment ça se passe le dépouillement ? Parce que là, s'il y a déjà des dizaines de millions de bulletins qui sont arrivés, est-ce qu'on peut déjà les dépouiller ou ça dépend des États ?
Ça dépend des États. Il y avait la réponse à ta question dans ta question. Comme très souvent aux États-Unis, les États décident d'une bonne partie de leur loi, même quand il s'agit de quelque chose qui résonne à niveau national, avec des différences. Par exemple, en Pennsylvanie, la loi impose que tu ne peux pas commencer à dépouiller les bulletins de vote envoyés par anticipation avant 7h du matin, le jour d'élection, donc mardi prochain. Il y a certains autres États où tu peux le faire, la Floride, si je ne dis pas de bêtises, tu peux commencer à les dépouiller, mais évidemment, tu ne communiques pas les résultats auparavant, ce qui permet de gagner un peu plus de temps dans la Floride. Et l'exemple de la Pennsylvanie nous fait dire que si c'est effectivement la Pennsylvanie qui est un des États décisifs pour déterminer le nom du vainqueur, on pourrait ne pas avoir les résultats tout de suite, on pourrait ne pas avoir les résultats dans la nuit de mardi à mercredi, mais il faudra peut-être attendre un peu plus. Donc effectivement, le dépouillement déjà se fait par des machines, hein, il ne se fait pas à la main dans la plupart des États. Quand tu remplis ton bulletin, en fait, tu coches des cases ou tu noircis en fait un rond, et ces bulletins sont passés ensuite dans des machines. Ce sont les machines qui analysent et qui donnent à la fin les résultats. Et s'il y a besoin de recompter, ça peut se faire à la main, mais en général, ça passe d'abord par des machines. Donc oui, effectivement, les règles dépendent des États, mais c'est vrai que ces bulletins, et Thierry le disait à juste titre, ils vont avoir une importance assez cruciale dans le vote et peut-être dans la contestation qui s'ensuit.
Alors, quand est-ce qu'on aura ces résultats, Thierry ?
Alors, tout est possible, hein. On peut très bien se dire que mercredi matin en française, on est un vainqueur et que la décision soit assez nette. Et puis, ça peut prendre des jours, voire davantage. Dernier exemple en date, évidemment, 2020, Biden contre Trump, une élection serrée, et il a fallu attendre le samedi suivant le mardi du vote pour avoir le résultat final et la victoire de Joe Biden.
Est-ce qu'il y a des sondages en sortie des urnes, comme en France ? Est-ce qu'on a moyen de connaître les résultats avant que tout soit dépouillé, Benoît ?
Alors oui, on a comme... tu sais, nous, en France, on a l'agence de presse française, l'AFP, qui fait des sondages, où on a aussi la télévision qui le font en sortie des urnes. Ici, AP, Associated Press, va aussi le faire, mais finalement, ça va nous donner une intuition peut-être ou ça va nous permettre de confirmer certains états dans lesquels il y a peu de place au doute. Maintenant pour les swing states, ça va vraisemblablement se jouer à quelques dizaines de milliers de voix comme en 2020, voire peut-être moins cette année, et puis il pourra pas tout de suite donner un vainqueur. Et puis il faut prendre aussi en compte la question du décalage horaire. Les États-Unis, c'est quand même un pays dans lequel il y a 4 fuseaux horaires différents. Tu vois, si on a à 20h les résultats, par exemple, de la Caroline du Nord ou de la Géorgie ou d'autres États qui sont moins cruciaux, par exemple le Maine, le Massachusetts, à ce moment-là, il sera 17h dans le Nevada. Donc on n'aura pas forcément tout de suite les résultats du Nevada puisque les bureaux fermeront à 20h dans le Nevada. Donc tu vois, il y a ça aussi à prendre en compte. C'est un pays qui est juste gigantesque. On y revient, hein, ça risque d'être tellement serré que je pense que les médias seront extrêmement prudents et à raison dans leur manière d'annoncer des vainqueurs ici ou là.
Tu le disais, Benoît, tout à l'heure, qu'on votait pour plusieurs élections. On vote aussi donc pour le Congrès, la Chambre des représentants et le Sénat. Thierry, pourquoi c'est une course hyper importante en plus de celle des présidents, de la présidente ?
Parce que le Sénat a un pouvoir politique énorme. En gros, le président américain ne peut pas faire passer une réforme un peu ambitieuse sans avoir recueilli une majorité au Sénat. Donc il semble acquis que les Républicains garderont la Chambre des représentants. Ça va se jouer sans doute à un siège près au Sénat, donc ça sera très très chaud, si j'ose dire, avec plusieurs élections qui vont être cruciales, comme celle à laquelle Benoît faisait allusion tout à l'heure dans l'Arizona, avec la républicaine trumpiste Carrie Lake contre le démocrate Ruben Gallego, mais il y en a quelques autres qui seront évidemment déterminantes aussi. Et donc ça veut dire que, par exemple, dans l'hypothèse où Kamala Harris gagne l'élection présidentielle, si elle se retrouve avec un Sénat républicain et une Chambre des représentants républicaines, ça va être très compliqué pour elle de développer et d'appliquer les principales propositions qu'elle a présentées dans sa campagne présidentielle. C'est une situation fréquente aux États-Unis, hein. Barack Obama, par exemple, il a été 8 ans président, il a été 6 ans en situation de cohabitation, et ça explique bien sûr ses difficultés à avoir pu avancer sur un certain nombre de sujets. Il n'y a que les 2 premières années de sa présidence où il avait une majorité. Et ce qui est vrai aussi, c'est que, et ça c'est très important dans cette perspective, il y avait une tradition américaine de négociation. En fait, l'art de présider aux États-Unis, c'est l'art de faire des deals avec le Congrès, y compris si tu n'as pas la majorité. Et c'était un art qu'on pratiquait de manière relativement, on va dire, efficace. En tout cas, il y avait une possibilité toujours de faire un deal, y compris si tu n'avais pas la majorité. Ça s'est considérablement durci, on va dire, en gros, ces 15 dernières années. Et maintenant, c'est vraiment bloc contre bloc. Et donc ça veut dire que si tu as le président d'un côté et le Congrès de l'autre, c'est vraiment compliqué de faire bouger les choses et de faire passer des réformes.
On le disait tout à l'heure, les sondages sont hyper serrés. On a par exemple, là où tu vas, Thierry, en Pennsylvanie, où il y a Trump qui a moins d'1% devant Harris. Et chez toi, Benoît, dans le Michigan, on a Harris qui a 1% devant Trump. Est-ce que ces sondages, Benoît, ils peuvent se tromper ?
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, tu as raison de dire que Trump est 1% devant Harris ici, Harris 1% devant Trump ailleurs. Ce qui compte, c'est la marge d'erreur dans ces sondages. Et souvent, la marge d'erreur, elle est de 3 ou 4%. Et on nous dit à la fois, oui, mais Trump est devant de 1%. Donc en fait, c'est embêtant de le dire, mais ça ne veut pas dire grand-chose, ce Trump 1% devant Harris ou Harris 1% devant Trump. En fait, on ne sait pas, tu vois, vu que la marge d'erreur est de 3 ou 4 points, dire que Trump est devant Harris d'un point, en fait, on est vraiment dans l'inconnu. Il y a une espèce d'énorme point d'interrogation qui flotte autour du résultat. Donc ces sondages, ce qu'ils nous disent simplement, c'est que, voilà, on ne sait pas. c'est que tout est possible. On peut très bien avoir Trump qui est 4 points devant Harris dans tous les swing states. On peut très bien avoir Harris qui est devant Trump de 4 points dans tous les swing states. On peut très bien avoir une course qui va être un résultat qui va être très serré avec les deux, 3 swing states pour un, 4 pour l'autre, etc. Donc, il y a vraiment tout qui est possible, mais ce que nous disent ces sondages, c'est que on ne sait pas et qu'il va donc falloir attendre mardi soir dans la nuit ou peut-être mercredi, peut-être jeudi. Mais c'est vrai que les Américains et la presse ne peuvent pas s'empêcher de faire des sondages et on les comprend. Là, plus ça va, plus il y en a 3 ou 4 par matin, 3 ou 4 par après-midi. Il y a des sondeurs qui les compilent et qui essayent de donner des petites tendances. Et on aime bien, on aime bien essayer de se dire oh là là, Trump progresse par ici, Harris progresse par là. Comment l'interpréter? Ou comment interpréter le vote anticipé? Il a été plus important dans cet état-là. Il y a des petits signaux qui peuvent éventuellement nous dire des choses, mais la marge d'erreur étant ce qu'elle est, une avance de 1 ou 2 points par ici, si on veut être sérieux et ne pas trop s'avancer, je pense qu'il faut rester raisonnable et dire qu'on ne sait pas vraiment.
Merci Thierry et merci Benoît. On se retrouve lundi pour la suite de ce podcast et la suite de cette campagne, ces dernières heures avant mardi. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser une note et un commentaire. À bientôt.